Au programme RAP, Prêche, Stage et un des plus grands incubateurs numériques du monde. Pour le RAP, ce sera jeudi et du côté des rappeuses. Pour le Prêche, portrait mercredi d'Omar Benlala ou comment un barbu peut un jour renoncer à cet ornement et un peu à sa foi. Pour le stage, il s'agira mardi d'entendre ces jeunes stagiaires de 3e que beaucoup d'entre nous voient passer une petite semaine dans leur entreprise. Que disent-ils au retour dans leur collège lors d'un oral noté ? Réponse au collège Jean Renoir de Boulogne-Billancourt.
Et tout de suite, cap sur l'univers de Xavier Niel.
Oui Hervé, dans le cadre de notre journée spéciale à un an de l'élection présidentielle, retrouver le désir de politique en partenariat avec Lacroix, Soline Nivet a interrogé la politique de la ville sur la transformation de la halle des anciennes messageries de la gare d'Austerlitz à Paris, dite halle Fraissinet.
Oui, bonjour. On est l'équipe de France Culture, on est arrivé, on vous attend à l'entrée du chantier. Merci, à tout de suite.
La halle Fraissinet, c'est une vieille histoire, puisque ça fait des années et des années qu'il y a des discussions autour de son avenir, certains voulant la démolir, purement et simplement, d'autres disant qu'il ne faut pas toucher à une pierre, si j'ose dire, de la halle. Dans le 13e, c'est un élément fort, puisqu'on a vu beaucoup d'autres lieux ou bâtiments être détruits. Je pense évidemment au buffet de la gare d'Austerlitz. Malgré toutes les bagarres associatives locales, on n'a pas pu le sauver. Et la halle, c'était un peu le dernier symbole de ce qu'on pouvait sauver au plan du patrimoine à la fois historique, architectural, dans le 13e arrondissement.
C'est moins dangereux par là-bas ou on passe sur le côté ?
On peut rentrer par le centre, là.
On peut mieux par le centre, oui. Hein. Ok, on y va.
De la halle Fraissinet aux 1000 start-up, la ville selon Xavier Niel. Un documentaire de Soline Nivet, réalisé par Christine Robert.
Avec Xavier Niel, le premier échange a été le jour où on a visité le lieu. Il nous a donné le programme 1000 start-up. C'était clair et net, 1000 start-up. Il faut qu'elles travaillent ensemble. Sur 120 mètres de long, 58 de large, donc un bel espace bien dégagé où vont travailler les jeunes créateurs d'entreprises. Alors ils travaillent sous forme de groupe, 60 de personnes, donc on va avoir 16 villages comme ça qui vont être répartis sur deux niveaux. Et donc ça va être le cœur de la réflexion, le cœur de la créativité, le cœur de l'invention.
Mais cette question, vous savez, ces bâtiments atypiques en plein cœur de Paris, c'est une question qui se pose pas seulement pour la halle Fraissinet, elle s'est posée par exemple pour le 104. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parallèlement à cela, et sans avoir eu encore dans mon viseur la halle Fraissinet, bon, je discutais avec Xavier Niel depuis plusieurs années, pas depuis 2012, mais depuis au moins 2010, de son idée de faire un méga incubateur à Paris.
Quand on a appris ce projet, qui est sorti de manière un petit peu confidentielle au départ, de Xavier Niel, de racheter la halle pour en faire cette fameuse soi-disant pépinière, leader mondial des start-up, etc. À la fois, on était content puisque le bâtiment trouvait une issue positive avec une fonction et une rénovation, et en même temps un peu étonné puisque ça échappait complètement à la puissance publique et à la capacité localement de pouvoir discuter de son devenir. Et donc à la fois des côtés positifs, mais à la fois des côtés extrêmement réservés sur la manière de faire.
On fait avec ce qu'on a.
Construite en 1929 par l'ingénieur Eugène Fraissinet, la halle des anciennes messageries de la gare d'Austerlitz fut longtemps promise à la démolition dans le cadre de l'aménagement du nouveau quartier Paris-Rive-Gauche. En 2012, elle a finalement été inscrite au titre de monument historique. En 2013, Xavier Niel, icône des entrepreneurs français du web, propose de racheter le bâtiment à la SNCF pour 70 millions d'euros afin d'y installer à ses frais un des plus grands incubateurs numériques du monde. tout en continuant de financer son école 42, privée mais gratuite dans le 17e arrondissement, qu'il dotera bientôt d'une autre structure d'hébergement annoncée comme révolutionnaire, l'investisseur milliardaire se lance aussi dans la construction de trois petites tours à Ivry pour loger plusieurs centaines de ses start-upers. Quand le business angel fait la ville, bouscule-t-il uniquement le montage opérationnel des projets auparavant portés par la puissance publique ? Ou infléchit-il aussi la conception architecturale des lieux d'apprentissage, de travail et de vie, dont il est à la fois le promoteur et le propriétaire ?
Mais c'est bien tous les six. Donnez-vous la peine d'entrer ?
Voilà.
Voilà, alors, déshabillons-nous peut-être ?
Jean-François Cabestan, architecte du patrimoine et historien de l'architecture.
Donnez-moi vos manteaux, il y a le porte-manteau.
Membre de la commission du Vieux Paris entre 2008 et 2014. Jean-François Cabestan, pourquoi fallait-il sauver la halle Fraissinet ?
Alors, c'était un enjeu majeur de ces dernières années. Parmi les différentes causes que j'ai pu défendre, entre des objets aussi disparates que l'hôtel Lambert ou la poste du Louvre, la halle Fraissinet s'est imposée comme un des très grands chefs-d'œuvre de l'architecture du béton. Et puis aussi, du point de vue de l'histoire de l'urbanisme, un objet extrêmement important, puisque cette halle Fraissinet se trouve un peu en aval de la gare d'Austerlitz. C'était une gare de transbordement entre le rail et puis la route, n'est-ce pas ? Les camions venaient à cul contre les façades latérales de la nef, les trains arrivaient, la halle fait 310 mètres de long, c'est la longueur d'un train de marchandises usuel à cette époque-là. Donc c'était un objet qui, d'un point de vue urbain, aussi avait une signification très très particulière. Cet immense parapluie, finalement, dans la ville, disponible à toutes sortes d'usages. Donc c'était quelque chose qui regardait certainement à une échelle qui dépassait même la simple Paris intramuros, peut-être aussi à l'échelle du Grand Paris.
La halle était un énorme point d'interrogation, elle a été pendant très longtemps, mais au fond elle a servi à se gratter la tête, à réfléchir, à penser.
Donc là nous sommes dans l'agence de l'architecte urbaniste Pierre Gournier, l'urbaniste du secteur dans lequel est implantée la halle. Il est responsable de ce quartier depuis 2004.
Quand moi je suis arrivé à l'époque du concours en 2004, le concours ne portait pas sur la halle. Le concours porterait sur un quartier qui allait de l'avenue de France vers la Seine à la rue du Chevaleret, à l'opposé. Il s'agit d'y placer, d'y dessiner 225 000 m² pour partie de bureaux, partie de logements et l'affaire de la halle. On pouvait ne conserver que 50% de la halle. La ville de Paris avait voté ça au conseil de la ville, hein. 50% d'un édifice en long, ça peut être plein de choses. On peut le couper en long, en large, en travée. Enfin, c'était la seule clause. Alors, pour le coup, je n'avais gardé que deux travées. La halle fait trois travées, hein, les trilobées. Je n'en avais gardé que deux. Il y avait un jardin qui descendait jusqu'à. Qui partait de plus 7 mètres et qui. Un jardin en descente très bien exposé qui descendait. Bon, ça, c'est le dossier du concours. Hein.
Alors, non, le projet de la ville...
Donc là, on a en long le projet de jardin...
Ça consistait à détruire une partie de l'édifice. C'est-à-dire, pour le mettre en valeur, c'est ça qui nous choquait beaucoup à la Commission du Vieux-Paris, puis tous les spécialistes du béton et puis tous les connaisseurs des grandes halles ferroviaires. On était très, très choqués par l'idée que le principe de la mise en valeur d'édifice passe par sa destruction partielle. Il s'agissait d'en retirer environ 25%, c'est-à-dire toute la terminaison, cette espèce de queue en cerf-volant qui est extrêmement intéressante parce que c'est là que les halles, les nefs s'amenuisent par une raison qui est qu'il y a le tracé de la rue du Chevaleret qui est là et qui fait que le bâtiment, en dépit de sa rigidité de conception, s'incline devant ce tracé qui est d'origine médiévale. Donc la queue du bâtiment, la terminaison est extrêmement importante. Le programme, il n'y en avait pas. Ce qui était c'était avant tout un projet urbain, c'est-à-dire il s'agissait de, puisque on s'était arc-bouté beaucoup à la conservation de la halle, il s'agissait de dégager des parvis d'un côté et de l'autre. Un parvis à la proue, côté nord-ouest.
Ça coupe la mieux, enfin, on en voit une ici.
Et puis un jardin au côté sud-est.
Enfin, on fait descendre le jardin jusqu'à la halle, mais il y a d'autres vues. On voit les trains là, puis on construit une dalle par-dessus. À l'époque, c'est un peu schématique. On pose des immeubles, on crée une petite, un balcon, voilà, qui longe cette table. Le jardin descend en creux et vient se glisser sous les deux travées conservées de la halle. Donc, ça donne cette ambiance. La halle devient un peu une serre, devient des tas de choses. On voit un peu ces images. Bon, ça séduit. Hein, je gagne ce concours. La vraie difficulté, quand on a un peu de... Elle s'est posée par la suite, elle ne s'est résolue qu'avec Niel, finalement. C'est que la ville de Paris n'a pas l'argent d'aménager ça. On a eu des dizaines de réunions, le temps passant, sur cette halle. Cette halle a failli devenir un tribunal, le grand tribunal de Paris. Des gens ont prétendu qu'on pouvait y faire un tribunal, ça n'a pas tenu la route une seule seconde. Il y a eu un moment de stupeur, au sens... stupeur, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là ? La ville a fait un concours à un moment donné sur le thème très ouvert. Qu'est-ce que vous nous proposez de mettre là-dedans ? Une équipe avait proposé d'en faire le plus grand centre d'accueil de réfugiés politiques du monde. D'autres imaginaient une espèce de un projet qui était sa propre publicité. C'était en fait c'était d'exposer de l'architecture. Ça devenait de l'architecture, quoi. Et après, il y a encore une autre vague de consultations. La ville de Paris a consulté Marc Mimram, Alexandre Chemetov. Voilà, c'est là. Grosso modo, ça tournait autour de l'idée qu'il ne fallait pas toucher à la halle, que dans la halle, c'était comme un espace public. Et comme il fallait quand même créer des mètres carrés de logement, Marc Mimram arrivait à les construire au-dessus du rail. Bon. Alexandre Chemetov, plus prudent, disait, ben voilà, dans ce qui est devenu actuellement la Douve, il plantait des immeubles sur pilotis, ce qui permettait de lui dire que sous la halle, il mettait un grand jardin. Bon, c'est tombé à l'eau, enfin, ça a occupé du temps, hein, tout ça.
Alors, il se trouve que je faisais partie de la commission du Vieux Paris, ayant été nommé en 2008. Le cas est arrivé en septembre 2011, et on a demandé une visite. Cette visite a bien montré, du reste, qu'il y avait une sorte, de la part des membres de la commission, une surprise et même une stupéfaction de découvrir ce qu'était réellement la halle Fraissinet, car nous l'avons parcourue dans son entier. Et je me rappelle très bien Claude Mignot, qui pensait, en commission, qu'on pouvait peut-être garder quelques travées, à titre de témoignage, ce que c'était que l'édifice, parce que l'invention de la précontrainte. Je vois encore Claude Mignot, ah oui, en effet, il faut garder la totalité de cet édifice, ça n'est pas simplement quelques travées de témoignage. Parce que, outre, en effet, la question du béton, il y a une qualité spatiale. Cet édifice qui est une sorte de basilique ferroviaire avec trois nefs, les éclairages zénithaux d'un bout à l'autre, il y a une magie, évidemment, tout à fait considérable. C'est au vent d'une finesse extraordinaire, ces voûtes qui sont de la coquille d'œuf. La performance qui consiste à couvrir le maximum de mètres carrés, on parle de 22 000 mètres carrés, n'est-ce pas, pour une quantité minimale de béton, voilà, on a... Là, quelque chose qui tient en effet d'un très grand savoir-faire, une économie de moyens spectaculaire pour un effet majeur et qui, par ailleurs, c'est vrai que c'était un bâtiment a priori utilitaire, se trouvait d'une très très grande beauté.
Ensuite, le retournement de la situation a eu lieu lorsque l'État a décidé de classer.
L'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a été décidée le 23 février 2012 par le préfet de la région d'Île-de-France. C'était une véritable gifle pour la mairie du 13e arrondissement, pour la ville de Paris. Cette nouvelle de l'inscription a été du reste très contestée. On sait très bien que des démarches ont été entreprises par les milieux informés, ont été entreprises pour déclasser ce qui venait d'être inscrit.
Du coup, la halle, dans le genre on garde tout, on garde tout, on garde tout, on m'adapte. Hein. Donc je me suis adapté, c'est-à-dire qu'on a gardé la halle tout entière, on a dit. Bon, et puis j'ai réinventé une promenade sur le haut, le long des immeubles, une promenade qui est en train de se construire, qui fera une trentaine de mètres de large, 700 mètres de long, une promenade plantée. Et puis la halle, ben c'est formidable. Il y a eu des brainstorming, on a fait venir des architectes du monde entier, on a fait venir des comités Théodule, et puis des vrais spécialistes de l'hôtellerie. Alors on imagine que ce serait un resort absolument incroyable, une piscine de 200 mètres de long, que sais-je. Personne n'avait de quoi financer quoi que ce soit. Moi j'avais pensé qu'au tout début, on aurait fait venir Besson là, faire une cité du cinéma, on avait une chance. Et puis est arrivé, mais vraiment comme le Messie, un type époustouflant, moi je trouve, c'est Xavier Niel. Il prend la halle tout entière, la ville l'achète à la SNCF et la revend à Niel, je crois à peu près au même prix. Niel, lui, il prend ça, il investit, je ne sais pas, 150 millions de travaux, il fait un magnifique projet avec Villemotte et ses équipes comme architecte. Il va faire une pépinière d'entreprise dans cette halle. Alors là, qui pour le coup est conservée tout entière, je dis bien tout entière dans le dernier projet, le voilà.
Bon, vous connaissez mes liens avec Xavier Niel. Nous avons été ensemble à Free avant que je prenne des responsabilités politiques à la mairie de Paris. Nous connaissons bien et nous sommes amis par certains aspects.
Jean-Louis Messica, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité de la capitale.
Donc nous avions des conversations informelles sur cette question du méga incubateur, faut-il construire, faut-il trouver un bâtiment pour rénover? Je cherchais aussi, parce que je trouvais que c'était une très très bonne idée. J'ai dit à Xavier Niel, tu devrais regarder ce bâtiment. Dans un premier temps, le maire du 13e arrondissement, qui était plus sensibilisé à un projet culturel, a vu débarquer ce projet avec une certaine méfiance, mais ça s'est arrangé tout de suite. J'ai organisé un rendez-vous entre Jérôme Coumet et Xavier Niel, et les deux hommes se sont plu. Ils sont très directs l'un et l'autre. Ça a très très bien fonctionné entre le maire du 13e arrondissement et le patron de Free.
Tout ça s'inscrit d'ailleurs dans un processus qui malheureusement est assez ancien, puisque dès 2001, Bertrand Delanoë l'avait dit.
Yves Contasso, Europe Écologie Les Verts, élu dans le 13e arrondissement depuis 2008.
En gros, l'urbanisation de la ville, ce qui reste à faire, doit être financé par le privé, la ville ne voulant pas investir financièrement dans la reconstruction ou la construction de la ville sur elle-même. Et donc ça fait partie des désaccords que nous avons eus avec lui et que nous continuons d'avoir, y compris avec le projet Réinventer Paris, où on a l'impression quand même d'une privatisation progressive mais régulière de l'aménagement urbanistique parisien.
Ça n'a pas été accepté instantanément par tout le monde de la même façon. Les incubateurs, c'était quand même à l'époque piloté par moi quelque chose de très équipement public, et là d'un seul coup on basculait dans un équipement privé, donc il y avait des gens qui disaient est-ce que ce sera vraiment un incubateur, qu'est-ce que nous aurons comme garantie que ce sera un incubateur, mais je crois que Xavier Niel a fait travailler Jean-Michel Villemotte, ce projet a été présenté à l'ABF et à Bertrand Delanoë, et là cette réussite à mon sens architecturale a emporté l'adhésion de tous.
Donc la ville a décidé de vendre à Xavier Niel et on a juste eu à dire oui ou non sans avoir notre mot à dire sur ce qu'il y aurait à l'intérieur, comment ça allait fonctionner, dans quel cadre urbain tout ça allait s'implanter, la relation avec les autres équipements de proximité, etc. Tout ça a été passé sous silence. C'est une décision de gré à gré, malheureusement, je dirais, parce que c'est pas notre conception de l'aménagement urbain.
Et alors, vous avez dit oui ou vous avez dit non?
Alors nous n'avons pas voté contre la vente, parce que Bertrand Delanoë avait été très clair. Il avait dit de toute façon, si ça ne se fait pas, il n'y aura rien. Et donc, on ne s'y est pas opposé. En revanche, on a tout de suite dit, ok, mais dans ces conditions, on veut pouvoir discuter, on veut pouvoir rencontrer Xavier Niel. Moi-même, je lui ai écrit, en tant que candidat pour les élections municipales de 2014, on a dit, écoutez, vous avez un projet, ça nous intéresse, on veut pouvoir en discuter. Inutile de vous dire, j'ai même pas eu l'ombre d'une réponse. Ça a été l'ignorance la plus totale, l'indifférence. D'ailleurs, il s'en cache pas. Les élus, pour lui, ça ne compte pas. C'est plutôt des empêcheurs d'avancer que des gens avec lesquels il faut discuter. La seule chose à laquelle on a eu droit, c'est une visite de chantier.
On fait avec ce qu'on a.
C'est quand même assez réduit.
Et c'est le gros train de vie. Toc, toc, fait le train. Des journées bien remplies.
Jean-Michel Villemotte, architecte missionné par Xavier Niel pour la reconversion de la halle Fraissinet en incubateur numérique.
Alors là, vous êtes dans la façade principale, vous voyez la nef. Alors la nef, c'est fantastique parce que vous voyez la transparence qu'il y a d'un bout à l'autre, c'est 310 mètres, 310 mètres d'une seule tenue. Vous pouvez imaginer qu'autrefois, les trains arrivaient au centre, ils amenaient des marchandises. Donc vous verrez d'ailleurs, et on a gardé les traces des emplacements où se trouvaient les trains et les rails, et de part et d'autre, vous voyez les mezzanines de part et d'autre sur lesquelles on va installer les villages.
On fait avec ce qu'on a, et c'est le gros train de vie.
faut tant de vie.
Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la voûte centrale et on voit le rythme des piles qu'a imaginé Fraissinet. On garde vraiment le béton tel qu'il est et puis on vient faire ces mezzanines qui vont être blanches. Donc elles sont légères, c'est comme des nuages blancs, vous voyez, c'est quelque chose de très, très doux. Il n'y a pas la brutalité si on avait gardé les IPN noirs ou un truc comme ça. On est vraiment dans la douceur, dans le blanc. En plus, ces tranches en IPN vont renvoyer la lumière, donc c'est ça qui crée cette légèreté. Et on ne lisait pas le lieu, alors que maintenant, il y a une vraie volonté d'avoir une lecture parfaite de l'espace. C'est la base du problème. Il y a un projet d'entrepreneur, Xavier, et un projet d'architecte, c'est nous. Et puis on fait rencontrer ces deux projets ensemble.
Xavier Niel nous donne assez peu d'informations. À part ses belles brochures et son site, on n'a pas grand-chose. Donc ce qu'on en sait, c'est qu'il veut en faire une sorte de lieu d'accueil du maximum de start-up. On parle de 1100 start-up qui pourraient travailler et s'épanouir et peut-être un jour devenir des grandes multinationales à partir de ce site. Et puis il y aura quelques espaces un peu plus conviviaux, soi-disant là encore, qui devraient vivre 24 heures sur 24, etc.
Là vous voyez les détails sont poussés jusqu'au bout. Ici, c'est un groupe sanitaire, carrelage blanc, sol noir. On a même dessiné une cuvette de sanitaire spécifique, qui est très très intéressante, très belle, noire et blanche. Donc, on va dans les détails.
Les start-upers ont besoin de WC dessinés sur mesure.
On les respecte.
Mais tout ça n'est pas réfléchi avec les gens du quartier. C'est lui qui décide de ce qu'il met dedans. Et on aura peut-être des surprises à la fin, ou pour des raisons que je méconnais aujourd'hui, il dira, ben non, j'ai changé d'avis, et finalement, le restaurant, je le mets plus là, mais je le mets là, il est plus ouvert 24 heures sur 24, mais uniquement de telle heure, etc. Donc on ne sait pas à la fin ce qui sortira du chantier réellement. Et quant à l'articulation avec le reste du quartier, elle est inexistante.
Au cœur du village, là, vous voyez, la kitchenette est ici. Ça, c'est un petit lieu de croisement pour ils pourront déjeuner, dîner. On est en train de faire vite le prototype qu'on va présenter à Xavier mardi matin.
C'est-à-dire qu'on voit bien que Xavier Niel a décidé d'acheter ce bâtiment, d'en faire son projet, mais sans concertation avec qui que ce soit. Donc c'est un objet posé là, au milieu des autres, qui n'a pas du tout vocation à être en harmonie ou en résonance avec les autres projets du site.
Bon, d'autre part, je vous avoue qu'on a fait vite pour déposer le permis de construire, on a fait très 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 vite, on n'a pas fait beaucoup de publicité autour de ça, on a fait notre projet discrètement, et puis je pense que c'est peut-être grâce à ça qu'on a eu le permis. Et puis il faut dire aussi que, il y avait une vraie volonté de le faire, le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, la mairesse de Paris, tout le monde allait dans un sens pour que nous fassions ce projet. Donc on n'a pas eu véritablement de frein et d'opposition. C'était presque un projet d'intérêt général. Donc on a bénéficié aussi de cet engouement sur une idée un peu, j'allais dire, humaniste, une idée généreuse pour ce projet de Xavier Niel.
Et le coup de génie, c'est qu'il investit...
Pierre Garnier.
Le process, enfin, de ce que j'ai compris du business plan, c'est pas idiot, il investit dans chacune des start-up. Sur le nombre, il y en a forcément qui vont jumper au plafond. C'est très étonnant, quoi. Il y a 6000 personnes, c'est 6000 scooters, c'est plein de choses. Ça va être un truc de dingue. Très difficile à réguler, ça va cracher partout, quoi. Là, on fait la promenade au-dessus, on pense que les gens viendront manger. Enfin, je crois que c'est ce qui pouvait arriver de mieux. L'arrivée de Xavier Niel dans le coin. Enfin, voilà, je ne le connais pas tout, mais je trouve que c'est bien ce qu'il fait, ce garçon.
Pour moi, la Halle Fraissinet, ce qu'elle apporte d'exceptionnel,
Jean-Louis Messica,
c'est que c'est à la fois un lieu de destination et d'attraction. Ce sera un vaisseau amiral. Ce sera visible depuis Bangalore, depuis Shanghai, depuis New York, le plus grand incubateur de la planète. Ce sera un lieu de destination parce que plein de gens viendront là. ce sera ouvert 24 heures sur 24, il y aura des Fab Labs, il y aura un restaurant, il y aura des salles de réunion, il y aura un amphithéâtre, et ce sera ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire que les gens pourront venir y travailler sans être nécessairement avoir leur bureau sur place, et ce sera un lieu de concentration en quelque sorte de tout ce qui fait la vibration de l'écosystème de l'innovation numérique à Paris. Donc oui, c'est un lieu d'une importance capitale pour le 13e arrondissement et pour la zone d'aménagement concerté Paris-Rive-Gauche. C'est ce que n'importe quel urbaniste ou adjoint à l'urbanisme recherche quand il lance un grand projet urbain dans un territoire, parce que ça donne du sens à ce territoire.
Là, on évoque un écosystème à l'échelle locale. Donc, on est dans le 13e arrondissement, à la limite d'Ivry, dans lequel Xavier Niel a un autre projet qu'on évoquera tout à l'heure, qui est un projet, au fond, qui est plus à une échelle de Paris et qui articule un incubateur dans la halle Fraissinet, un projet de logement, une école, l'école 42.
Mais 42, c'est quoi ?
En ce qui concerne l'école 42, ça répond à un autre sujet. Moi, j'appelle ça des projets privés d'intérêt général. Ça correspond au fait que le système éducatif public a du mal à suivre le rythme de la transformation numérique.
On va commencer en expliquant la genèse de 42. On sait que le numérique a tiré les États-Unis hors de la crise avec 40% de la croissance totale imputée à ce secteur en 2013, contre 20% en France par manque de développeurs qualifiés. Aujourd'hui, 5000 développeurs sortent des écoles françaises. Lancé en 2013, 42 a décidé de qualifier 1000 étudiants par an, soit plus de 20% pour un impact significatif sur le marché du travail.
Je suis l'un des cofondateurs et donc on a pris le projet de zéro, c'est-à-dire le bâtiment était...
Nicolas Sadirac.
Anciennement, c'est un bâtiment d'éducation nationale qui était pour former des inspecteurs d'académie, donc le projet et le programme pédagogique se sont dessinés en même temps du point de vue architectural et du point de vue pédagogique.
42 est une école d'informatique privée ouverte depuis juillet 2013, située à Paris, dans le 17e arrondissement. C'est une école entièrement gratuite, ouverte à tous, sans condition de ressources ni de diplôme, en complémentarité du système classique.
Donc ça se présente comme vous voyez, donc un plateau, un peu plus de 300 postes, qui sont en accès libre, 24-24 pour les étudiants, 7 jours sur 7, avec un dispositif qui permet aux étudiants de travailler en petite équipe, c'est-à-dire qu'ils peuvent se parler d'un ordinateur à l'autre assez facilement pour le travail collectif et le travail collaboratif. Alors, c'est plutôt joli.
42 propose des équipements de pointe dans une architecture innovante, sans couloir ni salle, du lieu le plus intime aux plus grands échanges.
Toutes leurs données sont enregistrées sur un serveur, ce qui fait que demain, ils peuvent travailler à cet endroit-là ou à un autre endroit. Donc il n'y a pas ce fameux bureau, comme à l'école, où tous les matins, on arrive, on travaille à ce bureau. Donc ça leur permet finalement, en fonction de leurs affinités du jour ou des groupes associés, ils peuvent travailler à un endroit et finalement s'approprier cet espace. C'est ce sur quoi on avait travaillé. Donc c'est finalement leur laisser le maximum de liberté et pouvoir s'approprier les lieux.
Bertrand Ferrérol et Horace Montazami, architectes de l'école 42.
Cette possibilité d'avoir des bureaux déportés de manière, avec les réseaux permet à chaque étudiant et futur travailleur d'avoir son poste n'importe où sur un plateau, mais bientôt n'importe où dans le pays et n'importe où en Europe. On arrive, on se plug et on est prêt à travailler n'importe où. Voilà.
42 adopte une pédagogie alternative. La formation est basée uniquement sur une suite de projets à réaliser. Il n'y a pas de prof, pas de rythme imposé et les étudiants se corrigent entre eux.
Il y a des espaces où ils vont enfin pouvoir se défouler un petit peu parce que c'est quand même pas simple de coder toute la journée. Donc à tous les étages, vous avez des espaces de respiration.
Mais globalement, le bâtiment, effectivement, tourne 24-24. On a des étudiants qui dorment tous les soirs ici. Vous avez peut-être vu des serviettes qui traînaient, donc c'est des étudiants qui ont passé la nuit ici, qui se sont douchés, qui ont laissé leurs serviettes là pour sécher. Parce qu'on a des douches, mais on n'a pas de sèche-linge. Donc ça, c'est pour le prochain, il faudra penser au sèche-linge.
42 propose aussi des jardins, des salles de jeux, des espaces événements, une cuisine, un jacuzzi, un food truck et des salles de détente.
Je suis dégoûté.
Ça c'est fort ça.
Petit, un démo,
et découvrir d'autres espaces typiques, comme l'espace PlayStation, comme on l'avait nommé lors du projet.
Il est clair que le lieu joue indéniablement sur l'état d'esprit, le fonctionnement. Vous voyez, il y a des trottinettes partout à l'entrée, parce que les gens prennent l'habitude, vous ne trouvez pas ça dans la plupart des structures. Ça doit être un lieu de vie, et d'ailleurs on travaille actuellement sur plusieurs concepts de lieux qui sont en fin de compte des lieux de travail, vie, plaisir, jeu, éducation, parce qu'on pense aujourd'hui qu'il y a une espèce d'écosystème qui doit se mettre en place, où la personne doit avoir l'intégralité de son bien-être à un endroit, parce que là aujourd'hui l'objectif c'est d'avoir des choses très créatives. Pour être créatif, il faut être bien, quoi. Donc il faut qu'ils puissent communiquer, il faut que les gens, vous verrez en bas, il y a un espace cuisine, les étudiants ils font la cuisine, il y a des trucs qu'ils mangent entre eux, il y a des barbecues, enfin il y a une activité, il faut que ça devienne un endroit investi.
Ce projet s'articule-t-il avec d'autres projets en cours, et notamment la halle aux 1000 start-up ? Est-ce que ce sont des projets qu'on peut mettre en perspective ou chaîner tant dans leurs implications pédagogiques que typologiques, architecturales ? Est-ce que ces projets ont des choses en commun, en dehors évidemment de leurs commanditaires ?
Je dirais qu'ils ont en commun la volonté de faire avancer l'écosystème. C'est-à-dire que c'est la volonté globale de faire avancer la France vers une certaine modernité dans le numérique. Donc ils s'inscrivent, je pense, tous les deux dans cette logique. Et ils sont tous les deux une brique de cette logique qui consiste à former des jeunes plus innovants, plus créatifs, plus capables d'aller vers le numérique. Et derrière, leur donner l'environnement à travers l'Alfre Signé qui permet d'être le plus impactant possible sur l'écosystème. Alors bien sûr, l'architecture s'en ressent, j'imagine. Parce que forcément, on veut la positionner tous les deux dans le même espace, dans le même monde numérique, dans la même modernité, dans la même agilité, tout le travail collaboratif, donc tous ces espaces open space où les gens peuvent travailler, partager, éviter ce côté dire très hiérarchique, très renfermé, très sectorisé. Voilà, c'est, on s'inscrit exactement dans la même logique.
Ça c'est fort,
quoi.
Xavier Niel fait beaucoup, moi je ne vais pas cracher sur tout ce qu'il fait. L'école 42 c'est une réussite, incontestablement.
Yves Contasso.
Ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas des outils publics qui l'aient fait avant lui. Ça c'est incompréhensible qu'on n'ait pas, y compris aujourd'hui, l'apprentissage du code à l'école. Ça devrait être intégré dans les programmes de l'éducation nationale. On a un retard tout à fait considérable en la matière. Mais il l'a fait, tant mieux. Qui plus est, quand on sort de l'école 42 aujourd'hui, on n'a pas de vraies difficultés si on a une compétence avérée, parce que la demande est telle sur le marché que des codeurs, on n'en a pas.
La plupart des responsables de cette nouvelle économie s'inquiètent de cela, qu'ils soient dans le jeu vidéo ou dans la téléphonie ou dans le web. Et le succès de cette école est tout à fait extraordinaire.
Mais quel est le bilan de 42 depuis 2013 ? Chaque année, au moins 20% des admis renoncent à venir étudier à Paris pour des raisons financières. Car gratuit, c'est encore trop cher. Le poste numéro 1 du budget d'un étudiant à Paris, c'est le logement. Et il y a au cœur de Paris un déficit de logement à bas coût pour les étudiants. Une solution serait de ne pas dormir du tout. Mais pour éviter ça, 42 doit proposer des logements temporaires et abordables à ses recrues pour poursuivre son objectif principal.
L'école 42 a répondu à l'appel à projet Réinventer Paris. Et juste en face, il y avait les hasards des parcelles. Il y avait une parcelle sur un territoire qui appartenait à Paris Habitat. Et c'est eux qui ont gagné cet appel à projet avec un projet qui s'appelle NOC, Not Only a Campus, qui est un projet assez révolutionnaire dans le logement étudiant.
Voyez-vous, il se trouve que parmi les quatre fondateurs de 42, il y en a un qui est breton. Et en Bretagne, ils ont un concept. Le lit breton dit lit clos. Allons chercher dans nos traditions et réadaptons-les à la modernité. Un dortoir moderne, c'est quoi ? C'est un dortoir spacieux, ventilé, privatif, où l'on peut s'isoler des autres visuellement et acoustiquement. Les lits cabines répondent parfaitement à ce besoin. 42 proposera ses logements à moins de 250 euros.
Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux.
Le projet NOC est conçu par AR Architecture.
Vous êtes des animaux.
Il propose aux 800 élèves de l'école 42 d'occuper à l'heure, la journée ou la semaine, une centaine de lits technologiques interchangeables.
Vous êtes des animaux.
On se glissera à quatre pattes dans ces étroits caissons individuels et hermétiques où l'on ne tient pas debout, à peine assis. Le descriptif précise que cette solution débarrassera, je cite, les étudiants de la contingence du sommeil et de l'hygiène.
Le mobilier reconfigurable permet de modifier les aménagements à la volée, comme avec des Lego, dans des espaces volontairement non programmés. La disposition reconfigurable des lits cabines crée des paysages toujours différents. NOC 42 sera donc un lieu réseau, disruptif et générateur de l'innovation. Il sera le support de nouveaux échanges entre la ville et le monde. NOC 42 propose de réinventer Paris.
Alors là, donc, on est dans la partie privée des startups, donc ils vont travailler sous les premières mezzanines, au premier niveau et au deuxième.
Jean-Michel Villemotte.
Et puis il y a un endroit que vous voyez là-bas, parce qu'on avait une voûte qui était plus haute, on a refait un plancher, et là on va avoir un espace de travail très libre. Et tout au début, je disais à Xavier, c'était un petit peu comme la bibliothèque Sainte-Geneviève. On arrivait, on prenait son temps, on s'asseyait où il y avait de la place et on se rencontrait, on se croisait. Donc c'était une idée qu'il a acceptée et qui lui plaisait bien. Je pense que c'est une question d'échange. Par exemple, nous avons une réunion la semaine prochaine pour parler de mobilier. On vient ici, on se retrouve sur place. Et là, c'est lui qui tranche. Il dit ça me plaît, ça me plaît pas. Ça, faut voir avec mes collaborateurs. Déjà, il a été très... très précis sur le siège, parce qu'il dit quelqu'un qui passe 12 heures, 14 heures sur un siège toute la journée, il lui faut un siège très confortable. C'est pour ça qu'on est parti sur des sièges avec des screens tendus, puis c'est aujourd'hui c'est la Rolls-Royce du siège, si vous voulez.
Vous vous occupez aussi d'un autre projet à Ivry de logement
qui va s'articuler, puisque l'idée du projet d'Ivry, c'est de créer 680 chambres pour des jeunes qui viennent peut-être, qui n'ont pas de logement à Paris, ou qui viennent de province ou de l'étranger, peut-être, souvent. Et on a imaginé d'ailleurs une sorte de nouvelle façon d'habiter, c'est-à-dire que ce sont des groupes de chambres, environ 6, qui sont réunis autour d'un foyer qui est un salon, une salle à manger, une cuisine et des balcons. Des aménagements véritablement contemporains, avec une coloration du mobilier. On est vraiment dans le futur, on est vraiment dans la jeunesse, dans la fraîcheur et dans la joie de vivre. Nous, c'est ça qu'on amène, c'est la joie de vivre. Ce sera un endroit magique, et sur le toit duquel, d'ailleurs, on a une idée qui va être fantastique, c'est qu'on va mettre une sorte de soucoupe volante qui sera éclairée jour et nuit, qui sera un signal dans la nuit, et qui sera le signal qu'il y a un événement, quelque chose qui se passe. Ce sont les jeunes qui vont travailler le jour et nuit, ou qui seront en relation avec d'autres pays. Il y a des décalages horaires prévus. Donc on aura ce lieu qui sera dans le ciel de Paris, dans le ciel de Livry, un lieu qui va symboliser le travail, qui sera aussi le rappel de ce bâtiment.
Étudier, travailler, habiter, jusqu'au choix du siège pour travailler confortablement, se nourrir. Il y a la présence en fait de Xavier Niel comme maître d'ouvrage, mais aussi comme faiseur de ville à toutes les échelles.
Ah, c'est un véritable projet urbain.
On articule avec urbain. L'école dans le 17e, les logements à Ivry, ici.
Tout à fait. Mais je pense que c'est une chance extraordinaire pour la France. Je pense qu'on va avoir le plus grand lieu de regroupement d'énergie numérique en Europe. C'est un signal à l'échelle de notre pays.
Alors, le projet, j'ai ramené quelques éléments. En mars 2014, les équipes de Niel sont venues trouver la ville, puisque là, Alfressiné est à 2 km à vol d'oiseau et même d'ailleurs à pied ou à vélo depuis ce secteur, donc à la recherche d'un site pouvant accueillir les gens qui vont travailler dans la halle.
Jean-François Laurès,
donc le projet de Niel,
directeur du développement urbain à Ivry-sur-Seine.
Voilà le bâtiment. C'est en effet sur ce site que le projet At Home va se développer. Le bâtiment principal qui donnera donc sur la rue Victor Hugo. Voilà, là vous avez le fameux skyline vu depuis l'autoroute A4. Et donc on voit très très bien cette tour de 56 mètres qui se détache du paysage. Et quand on verra ce projet-là, on saura qu'on sera à Ivry.
On saura aussi qu'on est chez Xavier Niel.
On saura certainement aussi qu'on sera sur Xavier Niel, même si je ne pense pas que ça sera inscrit sur le fronton. Voilà d'autres images. Ici, donc, le bâtiment le plus emblématique, c'est-à-dire le plus haut. Le rez-de-chaussée, tous les rez-de-chaussée qui seront donc dédiés à des activités. Et puis, après, vous avez donc les étages avec les fameuses cellules développées par Niel.
Au fond, qu'est-ce que c'est, cette cellule ?
Ceci représente, en fait, un logement avec donc des espaces communs qui sont ici, avec une cuisine, une table, etc. Et puis ensuite, vous avez donc ces différents ensembles qui permettent d'accueillir les start-upers. Vous avez donc six ensembles, six chambres. Ce ne sont pas des studios, c'est plus petit que des studios. Ce sont des chambres, comme si vous habitiez en colocation.
Ce sont des toutes petites chambres, un peu comme des cabines de bateau.
C'est un peu ça, en effet. On doit être sur des chambres qui font 9 mètres carrés.
Arrêtez de vous reproduire.
Alors, pour être honnête, moi je ne suis pas conçu le projet et je ne suis pas certain qu'il corresponde à l'idée que je peux me faire de l'idéal de l'habiter.
Romain Marchand, premier adjoint du maire d'Ivry-sur-Seine, délégué au développement urbain et économique.
Parce que je considère quand même que la qualité d'habitat va avec une forme de générosité dans les surfaces, le fait de pouvoir avoir son propre espace à soi, ce qui n'est évidemment pas l'idée des logements imaginés par Xavier Niel, et ce qui est même à peu près le contraire, puisqu'il y a effectivement cette idée de diminuer la séparation entre le moment où on travaille, le moment où on habite, et de penser que ça puisse créer une synergie, dont acte. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais voilà, c'est l'idée du porteur de projet. Peut-être que ça peut générer des choses intéressantes. On a quand même mis deux garde-fous dans ce projet. Le premier, c'est de s'assurer que les logements ne seraient destinés qu'aux start-upers. Donc, effectivement, que ce modèle d'habitat un peu staccanoviste, si je peux employer ce terme-là, ne puisse pas s'appliquer à des personnes qui ne seraient pas dans le processus de la halle Fraissinet et donc deviennent une forme de logement standardisé. Et puis la deuxième, c'est que, et ça va avec le principe de la halle, c'est que ce soit sur une durée déterminée. Je crois que c'est 2-3 ans, la durée maximum pour rester dans la halle. Donc ça garantit quand même que pour ces personnes-là, ce sera une étape dans leur parcours et pas du logement pérenne.
Sur Ivry, c'est une opération qui vise là aussi plutôt à fidéliser
Yves Contasso.
Les gens qui vont travailler à la halle Fraissinet en disant ben, c'est un package global, vous avez le boulot et puis en même temps le logement et on sait à quoi ça renvoie. C'est un modèle qu'on connaît bien, qui est le modèle du 19e siècle où des grands patrons disaient à leurs ouvriers ben, vous êtes à la fois chez moi pour le boulot mais à la fois chez moi pour le logement. Et donc vous êtes doublement tenu et donc vous avez intérêt à être très sage. L'exemple très connu de la chocolaterie Meunier avec les deux villages des bons et des mauvais ouvriers où vous aviez en plus la promotion immobilière quand vous aviez la promotion sociale. Donc on connaît très bien ce phénomène-là. Et on voit bien derrière ce qu'ils cherchent. C'est à obliger les gens d'une certaine manière à être dépendants de lui, y compris financièrement s'ils veulent se développer.
Vous êtes des animaux.
qui est certain, c'est que Xavier Niel, avec ce projet, s'invite dans le monde de l'immobilier. Je pense que les pouvoirs publics doivent s'interroger sur est-ce que c'est le modèle de fabrication de la ville. Moi, je ne le pense pas. Je pense aussi que la puissance publique a son rôle à jouer dans la préservation du patrimoine, dans la conduite de projets d'aménagement. Et ça ne veut pas dire qu'elle a vocation à tout faire, mais ça veut quand même dire que dans l'avenir, je ne crois pas qu'il faut laisser aux acteurs privés la totalité des projets de réhabilitation du patrimoine et de fabrication de la ville.
L'étonnant, c'est que des halles Fraissinet, appelons-la comme ça volontairement, on en a rasé beaucoup en région parisienne.
Pierre Gornier.
Celle-là a été sauvée, mais enfin, dans le genre halles à voûte mince, il y a l'affaire des halles alimentaires de Reims, sur lesquelles Paul Chemetov s'est beaucoup impliqué, qu'on a essayé de sauver, mais ça pose des problèmes très compliqués tant qu'on n'a pas un programme adapté à mettre dedans. Ces grands barnums, on ne sait plus trop quoi en faire. La difficulté, ce n'est pas le lieu en lui-même, c'est le programme qu'on est capable d'y insuffler.
Alors, on a besoin de business angel ?
Absolument. Je pense qu'il faut trouver des investisseurs. On peut les aimer ou ne pas les aimer, peu importe. On n'est pas obligé de les fréquenter. Mais enfin, Xavier Niel, c'est un bon nageur. Il sait trouver des aides, il sait se faire des copains, il sait investir dans des journaux, il sait investir à perte, investir à gain. Et puis, il y a le danger qu'on voit ailleurs, qu'on voit déjà en France, c'est finalement la rétrocession au privé de l'espace public.
Parfois, on peut avoir l'impression que Xavier Niel agit comme un être désintéressé. C'est évidemment pas le cas, il ne le revendique pas lui-même. Il y a évidemment un intérêt économique dans le montage de ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que cet intérêt économique rencontre une démarche d'innovation qui tire tout de même ce secteur d'activité, je pense, vers le haut. Maintenant, du point de vue, encore une fois, de la conduite des projets urbains, il y a quand même un principe important, selon moi, qui est que quand la puissance publique conduit les projets, quand elle aménage, elle soumet les acteurs privés à des orientations urbaines, politiques, d'aménagement, qui sont l'émanation de l'intérêt général. Quand ce sont les acteurs privés qui aménagent, ce sont évidemment d'autres intérêts qui sont en jeu. Donc les deux, évidemment, doivent cohabiter. Mais je crois que la puissance publique ne doit pas trop perdre de terrain dans l'aménagement de la ville. Or, c'est une question qui est quand même, je pense, au cœur de l'actualité avec les baisses de dotation qui, de plus en plus, imposent aux collectivités de recourir à des acteurs privés pour porter le foncier, porter des projets, parce qu'elles-mêmes n'ont plus les moyens d'investir pour porter ces projets.
Quand j'ai lancé le programme d'incubation à Paris, j'avais quand même dans l'idée qu'un jour, le secteur privé prendrait le relais. Vous savez, moi je considère que c'est un critère du succès de la politique que nous avons menée avec Bertrand Delanoë. Quand nous avons commencé, nous financions les incubateurs à 100% avec de l'argent public. Et puis progressivement, on a commencé à trouver des partenariats avec les acteurs privés. Xavier Niel n'est absolument pas le premier investisseur privé à financer un incubateur à Paris. Vous avez l'incubateur de Microsoft, vous avez l'incubateur d'un fonds d'investissement de capital risque qui s'appelle le Shaker, dans les anciens locaux du Figaro. Sur une cinquantaine d'incubateurs à Paris, vous en avez au moins une vingtaine qui sont des incubateurs privés. Donc, et pour moi, c'est un signe de succès. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en accord avec la maire de Paris, nous ne finançons plus d'incubateurs publics parce que nous considérons que nous avons fait notre travail.
J'ai pas vu le début des travaux, là c'est très intéressant. Et en particulier, on a détruit le bâtiment de bureau qui servait, dit-on, de contreventement. Mais je vois bien que le bâtiment se porte très bien malgré l'absence de contreventement.
Franck Guyon, président de l'association Eugène Fraissinet.
Je vois aussi qu'on commence à construire des mezzanines. Eugène Fraissinet en avait construit une sur la droite. Et je vois que M. Niel fait construire d'autres, toutes les mezzanines possibles sur les corbeaux qui avaient déjà été pratiqués par Eugène Fraissinet, sur les piliers. Il avait réservé l'avenir, Eugène Fraissinet. Bon. Et donc, il autorise une nouvelle destination d'un bâtiment qui était destiné à abriter des trains. Alors, je crois que M. Villemotte est venu ce matin. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas pu se rencontrer. J'espérais un peu voir Monsieur Villemotte pour qu'on rende un hommage à Eugène Fraissinet dans la halle qui porte son nom. Voilà. Et ça a l'air d'être un petit peu difficile de les rencontrer pour ne rien vous cacher. J'ai peur que l'irréversible soit fait avant qu'on parle de l'hommage à Eugène Fraissinet. C'est ça l'inquiétude de l'association Eugène Fraissinet. Donc je pense que c'est préférable qu'on se voit longtemps avant l'achèvement des travaux. Ils sont peut-être très pris, je veux bien le croire, mais une réflexion sur l'hommage, ça doit se faire un peu en amont. Donc c'est pas au moment où on va livrer le bâtiment qu'il faut se dire, ah au fait, l'hommage, comment on fait? On met quelques pancartes à l'entrée.
Fait avec ce qu'on a. Et c'est le gros train de vie. Teuf, teuf, fait le train. Des journées bien remplies.
C'est ça qui nous inquiète, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se voit. Donc c'est un peu le message.
Moi, j'aime assez cette mise en perspective historique qui est faite là. C'est intéressant.
Jean-François Cabestan.
Cette halle Fraissinet, c'est un lieu d'excellence de l'ingénierie française, puisque Eugène Fraissinet, ça fait partie des célébrités comme Gustave Eiffel, connues dans le monde entier. Vraiment, Fraissinet, Esquillon, peut-être aussi pour le CNIT, la célèbre voûte de la Défense. Donc, en effet, Xavier Niel, les start-up, le numérique, tout cela, en effet, c'est le fer de lance, bien sûr, de l'économie du monde moderne. Sous ce parapluie, on pouvait imaginer toutes sortes de choses différentes. On aurait pu le garder ouvert à tout vent. Maintenant, voilà, il est fermé. C'est un intérieur maintenant. Mais la qualité de la lumière qui entre dans cet édifice, les hauts vents latéraux qui sont extrêmement gracieux, ces voûtes lisses d'un seul tenant sur 310 mètres de long, ce sont vraiment des qualités plastiques qui n'échappent à personne. Pour toute personne qui entre dans la halle Fraissinet, on se rend compte que c'est quelque chose et qui sera parfaitement ménagé et préservé.
C'était de la halle Fraissinet aux 1000 startups, la ville selon Xavier Niel.
Le gros train de vie.
Avec Yves Contasso, Jean-Louis Messica, Jean-Michel Villemotte, Jean-François Cabestan, Pierre Garnier, Nicolas Sadirac, Orache Montazami et Bertrand Ferrerol, Romain Marchand, Jean-François Laurès et Franck Guyon. Prise de son, Étienne Leroy et Fabien Gosset. Mixage, Olivier Dupré. Attaché de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Production et coordination, Irène Omelianenko. Stagiaire, Maroussia Grain. Merci à Augustin Soufflet pour les conseils musicaux.
Le gros train de vie n'a pas un grand train de vie, ce n'est qu'une question d'énergie pour avancer toute la journée. Pas besoin de...
Un documentaire de Céline Nivet, réalisé par Christine Robert pour Sur les Docs.
Le gros train de vie.